Bonjour, bienvenue à tous sur cette émission des lecteurs sous les toits. Nous sommes aujourd'hui quatre à vous présenter nos dernières lectures. Autour de moi, j'ai Robert, Nathanaël et David. Je commencerai par vous présenter le livre de René Frégny, « Je me souviens de tous vos rêves », paru chez Gallimard. Puis Robert vous présentera « Après le silence » de Didier Castino, paru chez Liana Lévy. Nathanaël continuera avec un livre d'Hervé Lecor, « Après la guerre », aux éditions Rivage. Puis David, un livre qui se passe en Chine, « Bonsoir la rose » de Qi Zijian, paru chez Philippe Piquier. Et enfin, Sylvie et Nathanaël, nous vous présenterons « Les eaux troubles du Morito » de Philippe Delerme, paru au Seuil. Le dernier livre de René Frégny s'intitule « Je me souviens de tous vos rêves » et il est paru il y a 2 mois chez Gallimard. Donc René Frégny, le manosquin que nous connaissons bien. Ce dernier livre est dans la lignée de « La fiancée des corbeaux » qui était paru en 2011. On parcourt Manosque et ses collines au rythme des saisons. Au gré de ses promenades, il rencontre des hommes et il se souvient d'autres qui l'ont marqué. Son père, avec lequel il partait chasser, Joël, le libraire de Bannon, Pierre, le solitaire photographe des déchets, Isabelle, sa bien-aimée, si lumineuse, un SDF, ingénieur, et bien sûr sa défunte mère qui veille toujours sur lui grâce à une photo posée sur la bibliothèque au milieu de ses livres préférés. Il parle aussi de sa fille et d'une jeune voisine de son âge, isolée, qu'il n'ose pas aborder alors qu'il la sent si fragile. Il nous confie sa nécessité d'écrire pour se sentir vivant. Chaque mois de septembre, il achète un cahier d'écolier qui a besoin de lui et de ses mots pour exister. Il décrit aussi longuement son procès à Digne pour une sombre histoire à laquelle il a été mêlé malgré lui. Il parle du facteur qui, un jour, lui a envoyé la photo des seins de sa femme. Car, lui écrit-il, alors là je cite René Frégny, « Je suis facteur, j'ai lu tous vos romans, nous partageons la même passion, la même fascination pour les seins. Je vous envoie ceux de ma femme, que j'ai moi-même photographiés. Je les trouve tellement beaux. Il faut que vous en parliez dans votre prochain roman. » Alors évidemment, René Frégny éclate de rire à la lecture de ce petit message. Il raconte aussi l'épisode de la mort de son chat, tombé du 4e étage. Ce chaton qu'il avait sauvé 10 ans plus tôt dans l'ancien quartier des condamnés à mort de la prison des Baumettes, parce qu'il fait des ateliers d'écriture aux Baumettes. Ce petit chat était tombé du toit d'où il avait glissé et n'avait pas la force de remonter. Drôle de destin pour ce chat tombé 2 fois, une fois en venant au monde et une fois pour mourir. Ce chat était le témoin de l'écriture de son maître, qui travaillait toujours en le caressant. Et alors il lui manque tant que René Frégny va décider, enfin que le narrateur va décider d'entreprendre un voyage au hasard. Il prend un train au hasard et il se retrouve à Besançon. Donc il va y avoir tout un petit passage sur la ville de Besançon, sur l'hôtel qu'il fréquente, sur l'hôtelière. À la fin du livre, nous sommes en janvier 2015, et le narrateur parle de l'immense besoin de paix et de justice ressenti après les attentats de Charlie et de l'hypercacher. L'occasion pour lui de réaffirmer le conseil qu'il donne aux détenus de ses ateliers d'écriture. Posez vos calibres, prenez un stylo. Je voudrais juste vous lire un tout petit passage qui résume bien le livre, qui résume bien son livre. C'est la page 145. Je n'ai jamais ressenti à travers les saisons de ma vie un tel besoin de silence. Dans ce cahier, j'ai voulu parler d'un libraire, de mon chat, de quelques hommes perdus, parler de la lumière des collines, du visage d'Isabelle, de la douceur des matins, les après-midi d'automne, de la douceur des chemins, les après-midi d'automne, de cette petite table où j'invente la tendresse en écoutant derrière la vitre les voyages du vent. J'ai beaucoup aimé ce livre, car je suis arrivée à Manosque il y a 15 ans, après avoir vécu en banlieue parisienne. Moi aussi, je me promène dans les collines, et je suis sensible à ses charmes, et je ressens les mêmes émotions que René Frégny retranscrit si bien. C'est pour ça que je vous conseille ce livre de René Frégny, Je me souviens de tous vos rêves.
Après le silence de Didier Castineau, paru en août 2015. D'abord, une première information, le personnage principal ne s'appelle pas Antoine, comme c'était le cas pour les deux romans dont je vous ai parlé en février et mars. Vous vous souvenez sûrement de leur titre, chers auditeurs fidèles de notre émission Des lecteurs sous les toits. Il s'agissait de La Renverse d'Olivier Adam et de Assaïra de Denis Lachaud. Mais revenons au roman que je vous présente ce jour. Donc le personnage principal ne se prénomme pas Antoine, mais Louis. Il est ouvrier mouleur aux fonderies et aciéreries du Midi à Port-Saint-Louis-du-Rhône. À l'âge de 16 ans, on est en 1946, il est engagé dans cette usine et voilà ce qu'il ressent les premiers jours qu'il rentre dans l'usine. Je rentre aux fonderies et aciéreries du Midi. Fonderie, je ne sais pas. Aciérie, je ne sais pas. Fondeur, on m'a dit, je comprendrai plus tard. Acier aussi. Midi, je pense à l'heure, mais je ne réfléchis pas trop. Je sais que c'est le nom de l'usine, c'est tout. Un nom, ça ne se discute pas, ça ne s'explique pas, surtout à 16 ans. On s'en fout, on prend tout, c'est comme une chanson. On la chante sans rien comprendre pendant des années. Elle est là, on la chante. Et puis un jour, on en comprend le sens, un vrai bonheur. L'usine, c'est pareil. Son nom sonne bien et c'est tout. Après seulement, on comprend l'acier, fonderie et aciérie du Midi. Je travaille beaucoup. J'apprends sur le tas durant des journées infinies qui, délicieusement, m'épuisent. Ça me plaît. Dans ce roman, Louis monologue avec son plus jeune fils. Il lui raconte sa vie d'ouvrier, sa vie de famille, son action de syndicaliste. Il parle des vacances en Savoie qu'il arrive à payer à toute la famille et où il se retrouve avec ses amis. Mais revenons à l'usine, qui est un personnage majeur dans son existence. Voilà comment Louis la vit. J'aime travailler à l'usine, produire, j'aime être ouvrier. Nous sommes là pour ça. On n'a pas toujours choisi, c'est sûr. Mais on veut travailler. La question ne se pose pas. Jamais envisager de ne pas travailler. L'usine nous est familière. Un lien fort nous unit à elle. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. C'est fort, c'est tout. On y est attaché, oui, mais on ne va quand même pas mourir. Je dis mourir, j'exagère. Je veux dire que notre travail ne doit pas continuer quand on ne travaille plus. Agir encore sur nous les jours de repos. J'ai toujours voulu travailler. Un homme, ça travaille, c'est tout. C'est comme ça, c'est son rôle. Et son travail permet de vivre quand il en a fini. Lui permet d'exister aussi sans travailler. Travailler et ne pas travailler, moitié-moitié. Que l'un n'existe pas sans l'autre. L'usine avale tout. Une fois entré, on n'en sort plus. Les gestes et les blessures sont les mêmes, la chaleur est la même. Ce que je fais à 16 ans, je le fais encore à 30 ans, à 40 ans. Inutile de détailler tout ce qui se répète inlassablement. Bien sûr, les tâches se multiplient avec l'ancienneté, comme on dit. On travaille plus rapidement, mais on est toujours aspiré. Alors, quel que soit l'âge, tu n'as plus de choix. Ta journée se passe sans surprise, sans décider de rien. Comme si tu n'existais pas finalement. Je ne distingue pas d'étapes dans ma vie d'ouvrier. Pour moi, c'est un tout et je ne mesure pas le temps passé sur les moules d'acier. Surpris de me dire que je n'ai plus, que j'ai plus de 25 ans de boîte, c'est beaucoup 25 ans, toute une vie de jeune homme. Louis, à l'usine, est un syndicaliste actif à la CGT. Il nous raconte dans ce livre son action pendant les événements de mai 68. Il a aussi sa carte du Parti communiste et paradoxalement, il va à la messe le dimanche. Cela peut s'expliquer par ses origines italiennes. Il est très peu allé à l'école, mais pour lui, la culture est importante, et surtout la lecture. Je vous lis un autre extrait au sujet de la lecture. C'est dur de commencer à lire à 40 ans, mais j'oublie si la phrase est trop longue, si elle devient complexe. Je la perds, pourtant l'élan est là. Mais quand mes yeux se portent sur le livre, quand lentement il se déplace de gauche à droite sur une ligne, quand j'arrive au bout et enchaîne sur la suivante, parfois je me reprends, car dans ma précipitation, j'ai sauté une ligne. Il faut revenir, mais ce faisant, je perds la phrase. C'est couru et je recommence. C'est une épreuve, une rage, qui me rappelle le vide que je cherche à apaiser. Je veux, mais je n'en vois pas la fin. Je ne tiens pas la durée. C'est barré, alors je lis les titres et j'imagine. J'achète les titres et ta mère lit les livres. Quand je regarde ses yeux, elle est très loin. Elle le lit, elle le sait lire, c'est beau à voir. Je vois Rose, Rose c'est sa femme, et je l'entends lire. C'est le triomphe des ouvriers, le triomphe de la gauche. Je suis libre, je ne travaille plus à l'usine, je suis riche, je bois ce que je veux. On a gagné quand elle lit. Quand ses yeux bondissent ou glissent sur les lignes, on a gagné. Mais papa, te dira Rose, il lit, même si c'est dur pour lui, s'il en souffre, il lit. Et arrive le 16 juillet 1974, ce que l'auteur a appelé le silence. Il s'agit de l'accident survenu à la fonderie qui a causé la mort de deux ouvriers, dont Louis. Il avait 43 ans. Comment va réagir sa famille, sa femme et son plus jeune fils à qui il s'adresse dans ce livre ? Donc, pour terminer la présentation de ce roman, je vais vous lire maintenant deux courts extraits où vont intervenir sa femme et puis son plus jeune fils après sa mort. Elle a si peur qu'on oublie, elle force le trait. Je ne dis pas qu'elle invente, je dis qu'elle compose son présent avec ce qu'elle veut reprendre au passé. Qu'elle élève les passerelles entre notre vie passée et sa vie présente. Un geste entrevu qu'elle ramène à moi. Un événement, un changement, et elle me voit. Je suis encore dans ce qui se passe et surtout, elle le dit malgré vous, les fils, malgré vos sarcasmes et votre agacement. Je suis là. J'agis. Elle parle de moi, c'est tout. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou pas. Il s'agit seulement de continuer à exister, un peu moins seule. Et c'est là qu'elle est juste. Elle parle de moi, je l'ai dit, avec ce qui lui reste. Quand ce qui lui reste chevauche tout ce qui disparaît. Quand toute notre vie, vous et ce qui nous entoure, n'est plus tout à fait solide, plus tout à fait foutu, mais qu'il reste cette impatience, cet élan douloureux de dire et d'exister. Donc le dernier extrait concerne le fils, le troisième fils à qui il s'est adressé pendant tout ce livre. Maintenant, c'est le fils lui-même qui intervient. Il faut arrêter avec ces histoires. Je ne vais pas ressasser toute ma vie. Ce que je n'ai pas vécu, je ne l'ai pas vécu, j'accepte. Mais ce que j'ai est à moi. Je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai volé à personne, surtout pas à lui. Lui, c'est son père. Je suis un homme de 40 ans, je suis père de famille, ma famille est vivante, je ne suis coupable de rien. Je ne suis pas ouvrier, c'est un fait, il n'y a pas de mal à cela. On peut être un homme digne sans être ouvrier, on peut être un homme digne avec de grands principes. Mais je reste fils d'ouvrier, j'ai des réflexes qui me le rappellent, j'ai des hésitations, des révoltes que je porte en moi, et je me surprends toujours à comparer ce qu'il était et ce que je suis. Nos différences éclatent, mais ce n'est pas trahir. Tous les deux de la même famille. Je ne trahis personne, surtout pas lui. Et je peux bien mettre dans sa bouche des mots qu'il ne comprendrait pas, dire ce qu'il n'a pas dit, inventer ses bras qu'il n'a pas tendus. Je sais maintenant que cela ne le fera pas sortir de son trou. Mais si je veux, je continue. Tu vois, je continue. Je peux parler à ta place quand ça me chante. C'est ce que je viens de faire et tu n'as toujours pas bougé. Voilà donc un roman fort qui parle de la France ouvrière entre 1945 et 1975 et d'une famille de cette France ouvrière. L'auteur, Didier Castino, est professeur de lettres à Marseille et c'est son premier roman. Son titre, que je vous rappelle, « Après le silence » aux éditions Liana Lévy. Je vous le recommande. Bonne lecture. Thank you.
Alors, je vais vous présenter un livre de Hervé Lecor, Après la guerre. Il se passe à Bordeaux. Hervé Lecor est un professeur de lettres bordelais et il a écrit plusieurs polars qui se passent dans cette ville. Et celui-ci a reçu énormément de prix et il est vraiment prenant, passionnant, même si extrêmement dur. Dans les années 50, la ville donc de Bordeaux se remet de la guerre, même si elle laisse des traces sur les murs et dans les mémoires. Le commissaire Albert Darlac, fasciste convaincu, qui exècre la faiblesse et se place toujours du côté des plus forts, a su s'enrichir pendant la guerre, entre marché noir et saisie. Jamais inquiété lors de l'épuration, il règne sur sa ville grâce à sa connaissance du milieu et des secrets les plus inavouables des notables du coin. Mais une silhouette fantomatique semble rôder autour de lui, surveiller sa famille, tuer des gens qui lui sont proches. Là, je vais vous lire un extrait. 9 meurtres en 10 mois. Un tueur particulièrement déterminé et violent en liberté. C'est beaucoup pour une ville comme Bordeaux, qu'on tient pour calme et ordonnée, capitale de la modération politique, avec par le passé une Gestapo efficace et une police politique redoutable et redoutée. Une résistance hachée menue, des juifs dûment raflés, une belle proportion de salauds, de traîtres et d'immondes canailles passés pour la plupart à travers les mailles au moment de l'épuration. Et maintenant dirigé par ce maire jeune et beau au physique de représentant en aspirateur, résistant et irréprochable, chargé par De Gaulle de retaper la virginité de cette grande traînée et de sa marmaille morveuse de bourgeois, de négociants vains, de flics, de journalistes locaux toujours contents au bout de leur nouvelle est. 9 meurtres qui semblent, vu de Paris, un remugle des temps maudits, comme si un type se mettait à remuer le fond du marigot avec une grande perche pour défaire, remonter l'épaisse et lourde merde laissée au fond, les macchabées, les malles pleines de secrets et d'arrangements, les valises débordant de dénonciations et de spoliations, de certificats de résistance torchés sur le coin de table, d'ordres de déportation signés d'une main négligente. Voilà. Le tableau est dressé et on va faire connaissance parce que le livre tourne autour de 3 personnages, donc de Darlac, le flic pourri que on va rencontrer là, d'un ce fantôme qui donc tue des gens autour de lui. Qui est-il ? D'ailleurs, ce fantôme n'est-il pas la même personne, et on commence à le connaître, que le père de Daniel, que l'on va rencontrer, 3e personnage, un jeune homme dont les parents ont été raflés et qui lui a échappé à la rafle en étant posé par son père sur le rebord d'un toit. Et son père lui avait fait promettre de ne pas bouger, ce qu'il n'a fait d'ailleurs, et il va être sauvé. Donc, nous allons vous lire un extrait avec Sylvie qui nous présente ce sale flic qui a maille à partir avec donc le milieu.
Darlac va chercher le Krabos sous son lavabo et le tire par le col de sa veste de pyjama et le traîne au milieu de la pièce comme un fagot de bois mort, puis le pose sur une descente de lit déteinte, grise de poussière incrustée, qui a pu être foulée il y a 15 ans par des bottes chleux entre 2 patrouilles sur le port. Par la veste défaite, aux boutons arrachés, on voit les épaules, les omoplates, les clavicules, on voit les vertèbres, les côtes de cet homme, on voit sa maigreur de cage sur quoi la peau n'est qu'une étoffe blafarde tendue jusqu'à la croc. Darlac a déjà vu ça après la guerre, sur des civières dans le hall de la gare Saint-Jean. Tous ceux qui n'avaient pas récupéré malgré les soins et qu'on ramenait chez eux ravagés par la dysenterie et le désespoir, en attendant qu'ils se décident à revivre.
Darlac repense à tout ça en pressant son arme sur la tempe creuse de Bertrand Morac, dit Krabos ou le Krabos, surnommé ainsi par toutes les crevures de la truande et de la police, parce que 3 cancers en 15 ans n'ont pas réussi à venir à bout de sa carcasse, à chaque fois en rémission spontanée, mais n'ont laissé de lui que ce panier presque vide où la mort elle-même ne sait peut-être plus quoi venir faucher. Le commissaire se redresse et demande à Jeff de le surveiller. L'autre se plante devant le Krabos, bras ballant, une baleine contemplant une épave drossée, réduite à sa membrure. Darlac range son pistolet dans son étui d'épaule et s'approche du lit. Il arrache le drap qui cachait la fille et la voilà nue au milieu de ce désordre froissé. Elle a le réflexe de se recroqueviller, puis semble se détendre et s'allonge sur le flanc, reste appuyé sur un coude, un genou relevé, comme s'il posait pour un peintre, l'air crâne.
Quel âge t'as à faire la pute pour ce crevard ?
22. Et je fais pas la pute, on est amis.
22 ans, tu dis ? T'as des papiers ? Comment tu t'appelles ?
Arlette, j'ai 16 ans.
Tes parents, ils sont où ?
J'en sais rien et je m'en fous.
Alors c'est le trou direct pour prostitution et vagabondage. Tu te fringues, fissa, et on y va. T'as 3 minutes pour te couvrir le cul.
Il se tourne vers le crabos, toujours assis par terre.
Toi aussi, tu viens avec nous. Tu t'habilles, magne.
L'homme se lève et l'on voit son squelette bouger sous la peau et pointer, rouler. On croirait que ça lui fait mal. Il court pour récupérer ses affaires, son échine de dragon. Il s'accroche tout ça sur sa carcasse et peu à peu, la grande misère de son corps se cache sous les épaisseurs de tissu.
Mes parents, ils habitent à Saint-Michel, rue Saumenude, au 34, dit la fille revêtue d'un imperméable marine sur une robe noire. On est 5 gosses et il n'y a plus de place pour moi. Et mon père, il ne me veut plus dans son lit parce qu'il dit que je suis trop vieille.
Ton père est un con, déclare le gros, il ne sait pas ce qu'il laisse.
Faut qu'on décarre, Albert.
Darlac réfléchit, son regard arrêté sur la fille. Tu prends la bagnole du Crabos et t'emmènes la fille chez les Couchots. Tu dis à Mille de la garder au chaud et de la laisser tranquille. Ni turbin, ni rien. Elle sort pas. Elle parle à personne. Je viendrai les voir pour décider de ce qu'on fait. Moi avec Jeff, je prends le Tados pour lui parler du pays. Voilà, Darlac. Et donc, je vous avais parlé de Daniel. Daniel, donc, réchappé de justesse d'une rafle. Et qui reçoit, comme tous les jeunes de sa génération, donc 10 ans après la libération, on doit être à peu près dans le milieu des années 50, eh bien, l'annonce qu'il risque d'aller en Algérie. Et là, il est dans un bar avec son copain, Alain. Et Alain, lui, il ne veut pas y aller en Algérie. Donc on va vous lire le dialogue avec les raisons de l'un d'y aller, Daniel, et l'autre d'Alain d'éviter à tout prix d'aller. Dans, comme il dit, ce merdier.
J'en ai assez vu pour ce soir, je rentre. Dehors, il prend le vent de face. Il a cessé de pleuvoir, mais il se recroqueville, les mains dans les poches. Et il ne voit pas la ville détrempée luire faiblement autour de lui, presque éteinte. Alain court derrière lui, mais il ne la ralentit pas pour l'attendre.
Merde, qu'est-ce que t'as, Daniel ?
Rien. Tu prendras pas le même bateau que moi. Grand bien te fasse.
L'Algérie ? J'irai pas. J'ai pas envie d'aller me faire casser la gueule pour ces connards de colons.
T'as trop écouté Sarah. Tu seras déserteur ?
Non, insoumis, on dit. J'y foutrai même pas les pieds dans ce bordel. Et puis Sarah a raison. On n'est que de la chair à canon pour le gouvernement, comme pour toutes les guerres. Et toi, t'y vas ? Comme ça ? Sans te poser de questions ? Elle te dit rien, Irène ?
On en a déjà parlé 100 fois. Tu sais bien ce que je pense de tout ça. Mais ce que tu vas faire, ça sert à rien. Vaut mieux aller sur place et faire ce qui est possible.
Ah bon ? Parce que tu crois qu'on peut faire quoi là-bas ? Saboter les camions ? Boucher les canons avec des tracts ? Tu vas flinguer des officiers peut-être ? Et en 3 mois, tu seras comme eux. T'as bien vu les autres, ce qu'ils en disent. Ou alors tu iras au trou et tu serviras plus à rien non plus.
On peut faire prendre conscience aux autres que...
Non, la guerre, cette guerre, quand ça te prend, c'est comme si tu devenais fou. Ça te bouffe. T'as vu les mecs qui sont revenus ? Pérez, Bernard, tu te rappelles ce qu'ils disaient ? Pérez avant de partir avec sa grande gueule ? Et les trains bloqués ? Et les CRS ? Ça a servi à quoi ?
Je sais plus.
Daniel ne trouve rien à répondre. Pérez, un costaud de la CGT et du parti, voulait faire se révolter les appelés pour arrêter la guerre. Il s'est retrouvé en plein djebel, à crapahuter et à foutre le feu à des villages, plus d'autres choses dont il refusait de parler. D'ailleurs, il ne parlait plus beaucoup et dormait encore moins à ce qu'on racontait.
Je sais plus.
Alain le prend par l'épaule et le secoue. On en reparlera une autre fois. On va pas se fâcher, non ?
Daniel le repousse d'une bourrade. Ils éclatent de rire, puis ils se remettent à marcher sans parler. Quand ils franchissent le pont tournant, Daniel jette un coup d'œil au navire qui est dans les bassins à flot. J'espère que ça va marcher pour ton embarquement. Comme ça, tu pourras me raconter les ports et la mer, et les filles.
Après le pont tournant, la rue plus sombre les avale et on les entend parler bas et rire doucement, comme si dans cette obscurité n'osaient pas faire de bruit, de peur d'éteindre les quelques lampes tristes pendues au-dessus des pavés. Daniel ira donc finalement en Algérie. Et il y a des passages très, enfin, beaux, mais beaux d'une beauté douloureuse, hein, bien sûr, sur cette Algérie où ils trouvent une lumière qu'ils n'ont jamais vue auparavant, où ils sont écrasés de chaleur et en fait trouvent cette guerre que Alain lui avait dit qui serait dégueulasse.
Ils se défendent leur sac et se laissent tomber par terre et restent allongés sur leur lit, le pistolet mitrailleur sur la poitrine ou le fusil couché près d'eux. Et pendant un moment, on n'entend plus que leur respiration, leurs soupirs, parmi le bourdonnement des mouches et les grincements des lits, dans la pénombre du baraquement dont personne n'a songé à refermer la porte, sur la lumière blanche qui leur brûle les yeux et leur tanne le cuir depuis 6 semaines, depuis 3 semaines.
Daniel a fermé les paupières et il écoute ce remuement fourbu. Il laisse son corps s'alourdir et la toile du pieu se tendre au point peut-être de craquer sous le poids de toute cette fatigue. Il sent sur sa peau la sueur mêlée de poussière séchée et lui faire un masque marbré au teint terreux, comme ceux des morts qu'ils ont trouvés de leur deuxième patrouille dans les ruines d'une meshta. Deux paysans égorgés, sur lesquels les tueurs avaient jeté un chien, le ventre ouvert. Tous les bleus ont dégueulé, et les autres se contentaient de respirer par la bouche pour ne pas se faire tordre l'estomac par la puanteur, leur foulard sur le nez. Parce qu'ils ont beau dire, rigoler ensuite le soir une bière à la main, ils s'endorment aussi souvent avec cette vision de charogne et de sang noir, cette pestilence encore au fond de la gorge, qu'en compagnie du sourire de la fille qui leur écrit de temps en temps.
Daniel se rappelle qu'ils ont dû reculer tous parce que les guêpes les attaquaient, dérangés dans leur festin par un caporal qu'on avait chargé de trouver sur les Maccabées, des papiers ou un quelconque indice pouvant les identifier. Et ils ont gesticulé un moment pour s'en défaire pendant que le lieutenant appelait le PC pour signaler la découverte des corps et savoir ce qu'il convenait de faire.
Donc dans ce roman policier, on est d'un côté à Bordeaux avec Darlac qui est aux prises avec ce fantôme et qui tue énormément de gens autour de lui, comme dans un cercle concentrique qui va se rapprocher de lui, et Daniel, qui est en fait le fils de ce fantôme qu'on croyait mort en déportation, et qui se retrouve en Algérie, et qui lui aussi, malgré tous ses morts, va essayer de s'en sortir. Donc en fait, c'est l'histoire d'une vengeance, mais l'histoire aussi d'une époque, avec une libération, une épuration, ben, c'est pas bien faite dans Bordeaux, où on voit qu'il y a encore plein de remugles, de rancœurs. Et toute l'horreur, l'absurdité de la guerre d'Algérie. Donc c'est un roman, au début quand je l'ai présenté au comité, je disais un petit peu âme sensible, s'abstenir, parce que quand même il y a des passages extrêmement durs, c'est vraiment les bas-fonds de Bordeaux et les bas-fonds de l'âme humaine pendant la guerre, mais qui vous tient en haleine. Jusqu'au bout, en fait, malgré ces scènes terribles, l'écriture peut être lyrique, peut être belle, et on est vraiment accroché à nos personnages et on se demande si quand même, malgré tout, il va sortir quelque chose de beau et de bon de cette terrible histoire de vengeance, de mort, et si enfin la vie va renaître. Merci, c'était Hervé Lecor, Après la guerre, aux éditions Rivage.
Léna J fut ma troisième logeuse à Harbin. Elle avait plus de 80 ans lorsque j'ai fait sa connaissance. Sa maison se trouve dans le quartier d'Aoli, tout près de la Grande Rue. C'est un petit immeuble de briques et de bois, couleur crème dans le style des maisons russes traditionnelles. Voici comment s'ouvre le livre de Che Tsekien ou Shi Ziyan en français. Bonsoir La Rose, aux éditions Philippe Piquier, 2015, traduit par Yvonne André. Deux femmes, Zhao Xiaowei et Léna Ji. La première, jeune correctrice d'épreuves à l'agence de presse. Léna, vieille dame de 80 ans, retraitée, pianiste et ancienne professeure de musique, qui loue une chambre à Xiaowei. L'histoire se déroule à Harbin, grande ville industrielle de la Chine du Nord-Est, ancienne Mandchourie, aux confins de la Russie dont elle est séparée par le fleuve Amour, Songari en chinois. C'est une histoire d'amour, actuelle ou ancienne et cachée, que vivent les deux personnages de ce récit très maîtrisé et agréablement écrit et remarquablement traduit. C'est aussi un lourd secret qui lie ces deux femmes dont les arcanes se dévoileront peu à peu pour éclater à la fin. Ce qui peut fasciner le lecteur et qui vous tient en haleine, c'est le contraste sans cesse présent, subtilement, entre deux Chines. L'une traditionnelle, voire archaïque, évoquée par Keshan, dont est originaire la jeune femme. Keshan est une petite ville au nord de Harbin. Et Harbin, qui aurait fait le choix de l'Occident, tant dans son architecture que dans le mode de vie de ses habitants. Opposition en somme entre l'ombre qui n'est pas l'obscurité et la lumière fausse d'un certain modernisme. Harbin est une grande ville industrielle, je l'ai dit, oui, qui se trouve donc au sud de la Russie ou de l'URSS. Et on est tenté d'aller voir de l'autre côté de la frontière. C'est la région de Khabarovsk, là aussi où Staline avait décidé que les Juifs russes auraient non pas un État, mais un territoire, le Birobidjan. Je dis ça parce que la petite histoire, enfin l'histoire de ces deux femmes, est sans cesse expliquée, impactée par la grande histoire, ce qui se passe. Ce qui s'est passé pendant la guerre avec l'invasion par les Japonais et avant avec l'émigration à la révolution d'octobre en Russie par l'émigration des Juifs de Russie dans ce territoire chinois de Harbin. Voilà, je vais juste vous lire un tout petit extrait de ce livre, mais je vous laisserai peut-être l'envie de lire parce que c'est une histoire mystérieuse où beaucoup de choses se passent. Dans la Chine du Sud, l'année hiberne comme un ours. Dès qu'elle sort de sa tanière, le printemps est là. En revanche, ici, dans le nord, l'année est un lièvre des neiges filant sur la plaine immense. Il faut encore attendre longtemps avant de voir son pelage changer de couleur quand arrive le vent du printemps. Voilà, ça donne un tout petit peu la tonalité poétique oui, de ce livre. Et cette belle écriture qui est à la fois très classique et en même temps relativement lyrique. Je recommande donc la lecture de ce livre qui me paraît apporter beaucoup de choses sur l'histoire de la Chine actuelle et également sur ces oppositions que j'ai soulignées entre tradition et modernité dans cet immense pays qu'est la Chine. Merci. Je rappelle le titre « Bonsoir à la rose » de Qi Ziyan chez Philippe Piquier, 2015.
J'ai beaucoup aimé Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre de Philippe Delerme, paru au Seuil en 2015. C'est un recueil de petits textes, sensuels, de la même veine que la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules qui sont parus il y a quand même pas mal d'années. Philippe Delerme restitue des sensations fugitives, donne à lire des émotions sur des petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui font la beauté de la vie. Il nous permet de ne pas oublier ces petits riens grâce à son écriture si précise. Donc, pour vous en donner un exemple, avec Nathanaël, nous allons vous en lire
quelques petites histoires. C'est des toutes petites histoires qui font deux pages. Donc nous allons commencer par le petit récit qui donne le titre « Les eaux troubles du Mojito ».
On fête la convivialité de se retrouver en terrasse, de parler sans restriction. Prendre un cocktail, c'est chaud, il y a souvent des couleurs d'île, des rouges tropicaux, des saveurs de noix de coco, un petit côté soleil Club Med à boire au deuxième degré en se moquant de sa propre soif, d'une gourmandise enfantine que le rhum va créoliser.
Et puis il y a le Mojito. Le mot est sud-américain, mais on attend bien autre chose. On a beau continuer à suivre la conversation, feindre la différence, quand le serveur dépose le verre sur la table, on sent qu'une aventure commence.
C'est tellement pervers, tellement trouble. D'emblée, une invite à plonger, à s'embarquer vers des fonds sous-marins qu'on aura bien du mal à maîtriser. On va nager à la recherche d'une épave, peut-être, ou bien pour caresser des algues étranges qui veulent emprisonner ou caresser. L'équivoque est tentante.
Le Mojito, c'est à la fois opaque et transparent. Dans les verts, bien sûr, mais dans les noirs aussi, avec des zones un peu plus claires à la surface et des mystères insondables tout au fond de l'apnée. On y trempe les lèvres, surpris de cette fraîcheur qui sait prendre les éripeaux d'une moiteur de marigot.
Tout cocktail impose une consommation lente, entrecoupée de pauses, d'abandon et de retour. Avec le Mojito, on ne domine rien. La dégustation devient fascination et c'est lui qui commande.
Le plus étonnant est cette persistance du sucré dans une mangrove au ton si vénéneux. On se laisse pénétrer par une fièvre froide, on s'abandonne.
Au bout de cette errance glauque, on sait que vont venir une chaleur, une euphorie.
Mais il ne faut dériver dans la forêt feuille de menthe, ne pas craindre de s'engloutir, abandonner l'espoir de la lumière.
Nager toutes les transgressions, se perdre,
s'abîmer,
chercher infiniment,
descendre.
Alors montera le plaisir.
Alors voyez là, voyez un petit peu la tonalité de ces textes. Donc on va vous lire un petit texte qu'on a beaucoup aimé avec Nathanaël qui s'appelle Joyeux Noël et qui parle de souvenirs d'enfance du journal de Tintin. C'est incroyable.
On y est tout de suite.
Dans cette brocante en plein air, au pied de la longue table où sont entassés des pantalons, des voitures miniatures plus ou moins d'époque, des poupées Barbie, la petite pile des exemplaires du journal de Tintin, coincée dans un carton, n'attire que votre œil.
Elle vous attend.
C'est écrit sur la couverture de ce numéro 582, daté du 17 décembre 1959.
Des lettres jaunes sur fond noir. Joyeux Noël.
Qu'est-ce qu'on retrouve là, plus de 50 ans après, avec ce numéro qui n'a pas de prix ?
Tout.
On est exactement le même.
Chaque lettre de cette couverture coule dans notre sang.
Sans le savoir, on était devenu chaque détail de cette page.
L'extrémité d'une branche de sapin traverse le dessin. Une boule rouge y est accrochée.
C'est là qu'Hergé est fort. Dans la boule, les personnages qui fêtent Noël sont déformés par la rotondité.
Au centre de la scène, le visage du capitaine Haddock paraît immense. La coupe de champagne qu'il tient à la main a remplacé son verre de whisky.
On sent que pour Noël, il est prêt à tous les sacrifices, même à chanter un cantique en lisant le texte sur la feuille que tient Tintin.
À sa gauche, Tournesol, les yeux fermés, est tout entier pénétré par l'énergie du chant.
En fond de scène, les Dupont semblent consternés par la production vocale du savant sourd.
On se rappelait chaque détail, et même la matière du papier que l'on effleure avec bonheur.
Le journal de Tintin, qu'on achetait chaque semaine.
C'était bien ce rite hebdomadaire.
Le bonjour à Monsieur Rousseau, le buraliste, et en même temps le regard qui file là-bas, juste à côté des Mickey et des Spirou.
À 9 ans, une semaine d'attente est presque un infini.
On restait longtemps sur la couverture, comme si on n'était pas pressé de lire les histoires à suivre.
Mais c'était une façon de tout rendre plus intense. Comme au café, quand on attendait que les adultes aient fini leur verre pour déguster son diabolomante.
Pourtant, dans le journal, les scénaristes savaient jouer avec nos nerfs.
Ainsi, pour la dernière page de ce numéro 582, un nouvel épisode de Tintin au Tibet.
Sur l'ultime vignette, Haddock et Tintin portent Chang à flanc de montagne. Au premier plan, le Yeti les regarde, caché derrière un rocher, triste de voir son petit compagnon revenir à la civilisation.
On est là, si longtemps après. Le sourire qui vous vient aux lèvres est celui du temps qui n'existe pas. tout le contraire de la nostalgie.
On est resté entier, rond comme la boule rouge de Noël, pareillement ébloui.
On ne t'est pas pressé de tourner la première page, et on ne l'est pas davantage.
Ils sont à combien, les Tintins ? Voilà, donc ça c'est un charmant passage, un charmant petit texte. Une nostalgie d'enfance. Alors, nous allons vous lire un petit récit. Attention, peinture fraîche.
C'est un panneau maladroit au bout de carton que l'on écrit à la main avec des caractères majuscules, un peu tremblotants. Sur un banc, sur une porte, une fenêtre, une barrière, attention à ne pas vous tâcher. Attention également à ne pas gâcher le travail effectué.
Mais attention, vous risquez fort de vous asseoir ou de passer sans voir. On n'a pas détruit, on n'a pas remplacé, on a repeint.
Repeindre, ça se fait le cœur léger en sifflotant. On n'a pas eu la prétention de changer l'univers, de faire du neuf avec du vieux.
Quoique, sous ces deux couches bleu charron, le bois est beaucoup mieux que neuf. Il garde les mêmes nœuds, les mêmes rides. En le recouvrant, on fait davantage que le regarder.
Du bout du pinceau, on s'attache à sa structure profonde. On éprouve d'abord la difficulté de la pénétrer, puis la surprise de voir la réalité vous obéir sans se soumettre.
C'est au mois de mars ou d'avril, quand le soleil devient presque tiède. Un voisin passe et s'arrête.
Alors, on profite du beau temps ?
Un autre qu'on ne connaît guère.
C'est du travail.
Et un troisième admiratif en parlant du portillon.
Ça y change la gueule !
On se sent tutélaire, investi. On aime les choses telles qu'on les a trouvées, même les plus alambiquées, les moins utiles, les moins fonctionnelles.
On veut les vivre d'avant sa vie et les faire siennes, épouser le décor et lui faire plaisir.
Étonner en douceur.
Sentir ce tout petit acquiescement du monde et prévenir.
Attention, ça ne se voit pas beaucoup, mais j'ai changé la vie.
Peinture fraîche.
Voilà, donc c'était trois petits récits de ce très joli recueil que je vous conseille. Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre de Philippe Delerme, paru au Seuil.
Alors, Sylvie vous a présenté de René Frény, Je me souviens de tous vos rêves, chez Gallimard. Robert.
Didier Castino, Après le silence, chez Liana Lévy.
Nathanaël. Hervé Lecor, Après la guerre, chez Rivage.
David, Bonsoir la rose, de Chizijane, chez Philippe Piquier.
Et nous vous avons présenté toutes les deux Les eaux troubles du Morito, de Philippe Delerme, édité au Seuil.
Nous allons maintenant vous parler des prochains rendez-vous du comité de lecture. Donc, le prochain comité aura lieu le 17 mai à 18h, donc c'est le troisième mardi du mois, comme d'habitude. Et là, ce sera un comité de lecture spécial littérature italienne. Nous invitons le comité de jumelage Manosque-Voghera à venir avec nous présenter les derniers livres que ce comité nous a offerts, comme tous les ans. Ce comité de jumelage offre à la médiathèque un lot de livres italiens, en français, et traduits en français. Donc c'est au mois de mai, le 17 mai.
Alors le 10 juin, nous allons organiser une rencontre avec nos membres du comité de lecture, Raphaël, le jeune comédien qui nous aide pour nos lectures lors des correspondances, et les jeunes gens et jeunes filles de la DREP, qui est un centre de formation qui participe également avec nous aux correspondances, aux apéros littéraires. Et donc nous allons faire le 10 juin une rencontre tous ensemble pour apprendre à se connaître. Et cette rencontre se finira, alors si vous voulez venir, vous pouvez, par un pique-nique au centre, dans les jardins du centre Giono. Donc chacun est bienvenu et doit apporter quelque chose que l'on partagera ensemble.
Donc c'est rendez-vous pour les membres du comité de lecture et puis éventuellement, si vous souhaitez vous joindre à nous, le vendredi 10 juin à midi dans les jardins du centre Jean Giono. Le mardi 21 juin,
nous allons recevoir René Frény, donc également au centre Jean Giono, dans les jardins.
Alors, dans le cadre du comité de lecture, donc le mardi 21 juin à 18h.
Et puis, nous allons faire avec les membres du comité de lecture un spectacle avec nos clarinettistes préférés, c'est-à-dire la classe du conservatoire de Valérie Faroux. Et nous allons combiner des textes et de la musique qui iront du baroque au XXe siècle.
Alors, Valérie s'occupe de ses élèves du conservatoire et nous, nous choisissons des textes en corrélation avec ses musiques. Donc, c'est le vendredi 24 juin à 20h30 à l'auditorium du conservatoire de musique. Merci à tous.
Et merci surtout à notre
technicienne.
Technicienne, voilà.
Et à bientôt, au revoir.
À bientôt.